Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Peut-on parler aujourd'hui des religions à l'école ? C'est un vaste sujet qui fait régulièrement la une des médias, je ne dirais pas toutes les secondes et demie, mais tous les 2-3 jours, c'est un sujet récurrent, je dirais au niveau ministériel, médiatique et même présidentiel. Pour nous parler de ce sujet pointu et ardu, non moins une spécialiste qui va pouvoir nous décortiquer la chose, avec qui nous allons pouvoir en discuter, en débattre, où chacun pourra échanger son point de vue. Et surtout, elle pourra nous apporter ses lumières. Isabelle Saint-Martin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous et pour ces deux ailes. Pour votre livre, peut-on parler de religion à l'école aux éditions Albin Michel. Alors tout d'abord, nous allons faire connaissance avec vous. Vous êtes un personnage, dirais-je, dans le milieu, mais on va faire connaissance avec vous. Qui est Isabelle Saint-Martin ?
Je suis historienne de l'art, spécialisée sur les relations entre art et religion, davantage sur le christianisme, mais dans la formation, je suis intervenue avec des collègues et aussi en me formant moi-même sur leur rapport aux arts dans les monothéismes. Et puis j'ai eu la chance de participer aux réflexions autour du rapport de Régis Debré, oui, sur l'enseignement du fait religieux à l'école laïque.
En 2002.
Et de contribuer à la mise en place à l'école pratique des hautes études de l'Institut européen en sciences des religions qu'avait voulu Régis Debré pour participer à la formation des enseignants de l'école laïque sur les faits religieux.
Alors, vous nous expliquez dans votre livre que ce rapport était éminemment important, faisait rappel à un certain nombre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est tombé lettre morte ou il a quand même des incidences et des répercussions, j'ai envie de dire, positives?
Oui, il a eu des effets tout à fait importants qui sont parfois difficiles à percevoir pour un plus grand public, parents d'élèves ou même journalistes, parce que ce n'est pas toujours très lisible.
Oui.
En effet, le choix français, à la suite du rapport de Régis Debré et déjà avant, quand le débat est revenu dans les années 1980, le choix français pour parler de religion à l'école, ce n'est pas de faire un cours de culture religieuse ou même d'histoire des religions. Le choix du ministère a toujours été de passer par les disciplines existantes, c'est-à-dire de passer par les programmes scolaires tels qu'on les connaît. Donc c'est au cœur du programme d'histoire qu'il y aura un chapitre sur la naissance des grandes traditions religieuses, sur quelques aspects dans l'événement historique. C'est à travers le cours de français qu'on peut être amené, oui, à découvrir des extraits bibliques, à faire le lien dans des textes littéraires avec un substrat religieux. Donc, c'est médiatisé, si vous voulez, par cette approche des programmes. Alors, ce n'est pas toujours très lisible. Et puis, la critique qui est souvent faite, c'est celle du saupoudrage, de l'éclatement.
Mmh.
Pour autant, je dirais qu'il y a eu un effet très important du rapport de Régis Debré sur le plan qualitatif et symbolique. C'est-à-dire que le fait qu'on en ait reparlé, qu'il y ait eu cette position ministérielle, permet à des enseignants d'exploiter ces évolutions des programmes, parce qu'il y a quand même eu quelques évolutions dans les programmes, et de le faire sans crainte d'être pris par ses collègues ou par des parents d'élèves pour une grenouille de bénitier, si vous voulez, suspect de prosélytisme caché.
Oui.
Donc ça a libéré une manière laïque de regarder les religions à l'école.
Mm-hmm.
Et ça, je crois que c'est très important.
Mm. Alors, il faut avoir bien sûr un regard distancié. Alors, il y a même eu la parole présidentielle, hein, où le président faisait une forme de d'hommage à la laïcité propice.
Les présidents qui se sont succédés depuis les années 80 ont tous, à un moment ou à un autre, je me suis amusée à mettre en série ces discours, dit que ça serait bien de mieux prendre en compte les faits religieux dans le cadre scolaire.
Mm-hmm.
Qui ne veut pas dire réimproprier Dieu au sens d'un catéchisme, hein, au sens de l'histoire, telle qu'elle déroulait l'histoire sainte avant les années 1880.
Bien sûr.
Mm-hmm. Je rappelle qu'en 1882, il a été mis fin à un enseignement religieux confessionnel à l'école,
oui.
Tout ce qui était en fait un enseignement catholique exclusivement. Mmh. Hein.
Tout à fait. Donc, la laïcité voilà. est installée. Tout ce qu'il est possible de faire, ce serait au travers de l'art et de l'histoire, tout comme on enseigne les guerres, les couronnements, tous les événements historiques qui ont pu avoir, ce serait intégré donc à l'histoire au travers de l'art religieux, dirais-je.
Alors, c'est intégré au travers des cours d'histoire, un petit peu à travers l'étude littéraire français, pas simplement les textes bibliques, mais aussi les grands textes littéraires. On peut le trouver un petit peu dans les langues et civilisations. Mm-hmm. On va croiser, on fait pas beaucoup d'histoire des sciences à l'école, mais on peut croiser le débat sur le créationnisme en essayant de réfléchir en français à la notion de mythe et de voir comment ça peut ressurgir de manière parfois conflictuelle dans les cours de sciences. Mm-hmm. Ça, c'est pris en compte. Ce que il me semble important de souligner, c'est que si on passe et à mon avis, pourrait l'être davantage, tout en restant dans le public et dans le respect des programmes, je crois qu'il y a des fils qu'on peut tirer et qui permettent d'aborder ces faits religieux de manière distanciée, objective, c'est-à-dire les réduire à des faits matériels, mais avec un regard qui n'est pas le regard d'un partage d'expérience, qui est un regard scientifique, informé par les différentes disciplines, sans pour autant esquiver la question des significations, la question des dimensions symboliques, du sens que les communautés religieuses y mettent. Hein. Et c'est parfois le risque, me semble-t-il, dans une approche trop rapide ou trop exclusivement à travers des points d'histoire. Par exemple, quand on parle des guerres de religion, souvent on parle des affrontements.
Bien sûr.
Et puis on ne dit pas, mais finalement, qu'est-ce qui les différenciait? Qu'est-ce qu'ils croyaient? Quels étaient les points de conflit? Et qui ne sont pas uniquement des problèmes territoriaux, des problèmes politiques, même si ça interfère dans
bien sûr.
Guerres de religion.
Oui, derrière les faits religieux, il y a forcément des faits politiques de toute façon. Tout au long des siècles,
voilà.
C'est lié de toute façon.
C'est pour ça, et c'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que Régis Debré parlait d'un enseignement du fait religieux, et cette expression n'est pas très claire, elle a suscité des peintes, crainte de ceux qui pensaient qu'on allait parler d'un religieux universel qui s'impose à tous, ou crainte de ceux qui pensent qu'on va se limiter à une approche très factuelle, très extérieure et superficielle. Et en fait, nous avons préféré, avec son accord tout à fait impliqué, parler de faits religieux au pluriel. On vient rappeler qu'il n'y a pas de faits religieux à l'état pur. Quand on les saisit à travers ces visions des programmes d'histoire, de lettres, de langues, c'est en interaction avec des faits de société, des faits de culture, avec le religieux objet de culte, du religieux objet de culture, qu'on doit prendre en compte, qu'on soit croyant ou non. Ça fait partie de la culture générale et cela permet aussi de mettre à distance ses propres représentations de la place de l'homme dans l'univers.
Tout à fait.
Confronter à d'autres systèmes de représentation.
Tout à fait.
Et je pense que c'est à partir de cette confrontation que l'on peut développer une forme de respect mutuel. Il ne faut pas idéaliser un enseignement des faits religieux qui serait en soi source de tolérance ipso facto, mais ça permet de découvrir la pluralité des systèmes de représentation du monde, d'éviter l'ignorance, parce que si on n'en parle pas au motif qu'on ne partage pas tous, au motif que l'on est dans une société où il y a une large place de l'athéisme et de l'agnosticisme, et ça, il ne s'agit pas d'essayer de faire encore une fois du prosélytisme ou de convertir. Il s'agit de prendre en compte cette diversité des représentations du monde et d'éviter une forme de déni qui favorise l'ignorance et par là les préjugés. Ce dont on ne parle pas, ce qui est tabou, ça fait peur.
Tout à fait.
Si on en explicite certains éléments en classe, on peut développer, je dirais, toute sorte de respect mutuel que de tolérance. Et également de mise à distance de ses propres convictions et croyances.
Tout à fait. Alors, il est évoqué également, alors régulièrement, je le disais régulièrement dans les médias, on ressort la chose de la boîte de Pandore comme un lutin sortant de sa boîte, ou du diable même. et notamment durant les attentats de 2015, un triste, triste moment de notre vie française, où là, de nouveau, a ressurgi, je dirais, le spectre de la religion à l'école. Mais on parle de la religion à l'école, c'est-à-dire, faut-il l'enseigner, faut-il ne pas l'enseigner? Est-ce que si les enfants étaient avertis, étaient mieux renseignés, est-ce que finalement ce fanatisme complètement débridé, complètement mortel ne serait pas? Et régulièrement, ça revient. Alors on a l'impression que quand les choses se calment, eh bien, on met la poussière sous le tapis, et puis il suffit qu'il se passe un événement aussi dramatique que ceux de 2015, on remet le sujet sur la table, mais j'ai l'impression qu'on se fourvoie complètement, parce que vous, dans vos explications, c'est très logique, c'est très clair, on parle d'effets religieux, mais là où évidemment j'ai l'impression que les choses sont complètement faussées, c'est qu'on reparle de la religion à l'école, et les deux choses sont complètement différentes, c'est antinomique.
Oui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de faire un enseignement confessionnel à l'école.
Oui.
Il s'agit, parce que ça, c'est contraire aux lois scolaires des années 1880 qui préparent la séparation des églises
de l'État. Oui.
Et l'école pour tous s'adresse à tous sans distinction de croyance, d'origine, de conviction des parents. Donc, c'est du commun. L'école, elle construit du commun. Elle construit un regard commun sur cet objet diversifié, ces différentes représentations du monde qu'expriment les traditions religieuses. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant après les attentats de 2015, c'est que quand on a parlé de renforcer la transmission des valeurs de la République, eh bien, au titre des premiers articles, était évoqué un enseignement de la laïcité et des faits religieux, pris en compte, si vous voulez, dans cette culture du citoyen. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'imaginer que si les frères Kouachi avaient eu des bons cours sur les faits religieux, ils
ne
seraient pas devenus terroristes.
Bien
c'est
sûr.
Une vision un peu simpliste. Mais penser que dans la culture commune, une meilleure connaissance des différentes traditions, ça évite de propager des préjugés, ça évite de craindre des représentations d'un autre qu'on ne sait pas très bien comment percevoir. Et d'une certaine manière, ça peut contribuer au vivre ensemble, et en tout cas à la prise en compte du pluralisme dans la société française, mais aussi des dimensions symboliques qui sous-tendent cette représentation du monde dans l'histoire et dans le présent. Parce que le religieux n'a pas disparu, on le veuille ou non, de la surface du monde contemporain.
Oui. Mais
pas alors, simplement dans une situation de conflit d'ailleurs, dans la culture, on en voit des quantités d'exemples.
Mais le problème, c'est que votre discours, pour moi, il est parfaitement audible et je l'entends très bien. Et je suis sûre qu'en lisant votre livre, les auditrices, auditeurs se rangeront à cet avis. Le problème, c'est que quand on parle des faits religieux, de la religion à l'école, vous avez tout un tollé, vous avez des voix qui s'élèvent en disant mais il n'en est pas question, c'est la laïcité, la religion c'est dans son église ou avec le prêtre, le pasteur, l'imam ou à la synagogue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens dans l'esprit collectif ne font pas cette analyse, n'ont pas ce regard distancié et ce recul nécessaire, ce qui fait que ça fait un amalgame, ce qui fait que finalement rien n'est entendable et rien n'est audible à ce sujet. Moi, j'ai l'impression que les gens sont assez sourds et assez fermés à ce genre de choses.
Alors, c'est vrai que dans notre histoire française très attachée à la laïcité et due à la faible place des sciences des religions dans l'université, on a très souvent l'impression que ça va être difficile d'aborder ces questions sans que ce soit de manière confessante, en partageant une foi. Et ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas le lieu de l'école. Il faut bien distinguer ce religieux objet de culte du religieux objet de culture. Pour autant, je crois qu'on peut le faire, et quand même là, les esprits ont progressé, me semble-t-il, depuis le rapport de Bré. Il y a eu vraiment une prise de conscience que ça fait partie de la culture générale, de l'enseignement, à travers ces différentes disciplines. Il y a autre chose. Si la crainte, disons, du cheval de Troie du catéchisme s'est peut-être un peu adoucie, même si on la voit bien ressurgir parfois, il y a une autre crainte qui est tout à fait légitime chez les enseignants, parce que c'est une vraie difficulté, c'est qu'en abordant ces questions, on va faire rentrer dans la classe des débats, des polémiques qui sont très vives à l'extérieur. Je pense le conflit au Proche-Orient, les conflits dans l'islam entre sunnites et sunnisme, les débats sur les questions éthiques, Manif pour tous et autres qui ont agité la société française.
L'immigration,
que, quand
même,
on parle des faits religieux à travers les programmes, on risque pas de faire rentrer dans la classe toutes ces polémiques externes. Et bon, je crois que là, c'est vrai que c'est le savoir-faire de l'enseignant de pouvoir proposer justement, à travers sa discipline propre, à travers sa méthodologie, un regard dépassionné qui construit un objet commun, qui permet un lieu de débat et de savoir, et qui évite de tomber dans l'émotionnel de ces conflits. Il faut évidemment distinguer aussi l'approche, le discours sur le religieux à l'école et l'expression du religieux, le vécu, que ce soit les débats sur le voile, le halal à la cantine, ou le kasher, etc. Tout ça, ce sont des revendications d'expression religieuse dans le vécu de l'école. Ce n'est pas la même chose, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on peut craindre qu'il y ait des bords d'un des débats sur l'autre et qu'on ne puisse pas toujours avoir cette approche qui est celle de la connaissance. Alors qu'au contraire, en parler permet
de dénouer les choses,
de tomber uniquement dans le passionnel.
Tout à fait. Alors j'espère que ce qui va être passionnel, c'est cette petite pause musicale que nous allons faire et nous nous retrouvons dans un tout petit instant.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous. La joie vienne, mais oui, l'école est finie. Nous irons danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter, tous entre amis. Bien que d'y penser, j'en perds la tête. Mais oui, l'école est finie.
Donne-moi ta main,
et prends la mienne.
La cloche a sonné,
ça signifie. Ta main et prends la mienne. Nous avons pour nous toute la nuit. On s'amusera quoi qu'il advienne. Mais oui, l'école est finie.
Sur l'émission Délivrez-vous avec Isabelle Saint-Martin sur son livre Peut-on parler de la religion à l'école aux éditions Albin Michel. Alors, moi, je me faisais un petit peu, comment dirais-je, j'essayais d'enfoncer un petit peu des portes ouvertes pour parler de votre livre par rapport des faits religieux à l'école. Malgré tout, même si vous nous dites qu'il y a quand même des avancées, qu'il y a une moins de crispation, dirais-je, à cette encontre, est-ce que les enseignants, malgré tout, ne sont pas un peu réfractaires à ça? Est-ce que, vous savez, ce précaré de l'enseignement, comment peuvent-ils peuvent-ils aborder ce genre de sujet? Bien évidemment, en l'intégrant, on le disait, à l'histoire, parce que à l'histoire et en résumant la religion au travers de l'histoire, parce que de toute façon, c'est une partie intégrante et elle est liée, on disait, la politique et la religion. Malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas quand même des réfractaires? Est-ce que ce n'est pas sujet aussi à polémique de la part des enseignants? Est-ce que ça n'est pas compliqué d'insérer ce genre de choses pour eux aussi?
Alors, il y a une grande diversité de situations. Hein. C'est évident que tout le monde n'est pas toujours d'accord sur tout.
Oui.
C'est la démocratie.
Oui,
il y en a qui sont plus
ouverts, plus réservés. Oui.
D'abord, je dirais que c'est quand même dans les programmes. Donc, ce qui est dans les programmes, les enseignants ont à cœur de le transmettre. Il y a une grande diversité. Je dirais aussi que, et là, peut-être le côté le pluraliste de la société française nous aide. Au début, il y a une vingtaine d'années, quand on en parlait, il y avait encore très clairement des enseignants qui étaient gênés pour aborder le christianisme, avec la crainte de ce retour à une période d'histoire sainte, catéchisme.
Oui.
Enfin, ils le disaient comme ça, on n'est pas là pour faire le catéchisme à l'école.
Oui.
Et ça, on voit moins ce type de réaction. Peut-être parce que justement la montée de l'agnosticisme, de l'indifférence par rapport aux religions, fait qu'il y a une culture de curiosité, d'intérêt pour ces questions et que les plus jeunes enseignants sont moins dans le compte à régler par rapport à la pesanteur d'un héritage religieux familial dont eux-mêmes auraient aimé s'affranchir. Donc cette génération-là est plus
ouverte,
curieuse et
plus
moins
curieuse
dans le conflit. Après, il y a encore d'autres situations. Hein. Et c'est vrai aussi que certains se sentent, craignent de ne pas être suffisamment formés, redoutent la position critique de certains élèves. Et je crois qu'il est tout à fait important de rappeler qu'ils sont dans la posture enseignante, qu'ils sont dans la posture laïque en faisant cela. Et c'est important aussi que les parents leur fassent confiance. Ils sachent que c'est bien dans les programmes, même si ça n'y est que de façon ponctuelle, limitée, bon ça on peut peut-être en reparler, mais c'est pas une marotte d'un enseignant que de parler de l'islam en cinquième, et c'est pas parce qu'il parle de l'islam en cinquième qu'il peut être privilégié, il leur a parlé du judaïsme et du christianisme en sixième, l'année d'avant. Donc là on a vu parfois des réactions de parents qui disent « je ne comprends pas ». Et que l'islam dans l'année de ces deux saints. Non, on va retrouver ensuite, sur la période médiévale, les relations entre les empires, entre l'Occident et l'Orient, dans les divergences au sein du christianisme.
Oui.
Il y a quand même un parcours qui est proposé. Et il faut savoir que c'est tout à fait légitime que ce soit abordé à travers ces enseignements. Donc, pour autant, ça ne devrait pas réduire ça à une approche qui fasse l'économie des dimensions, encore une fois, symboliques et de ce que les communautés y mettent, des significations qu'elles y mettent. À travers les programmes, comme je vous le disais, restent des aspects très limités.
Oui,
ça, c'est peut-être la critique qui est encore faite de ce saupoudrage. Et c'est, me semble-t-il, un risque important de présenter surtout les religions de leurs origines, ce qui est évidemment important. Mais comme il y a peu de place dans les programmes, on peut être tenté de vouloir tout dire dans le chapitre sur les origines, la naissance des Hébreux, naissance de l'islam, alors que les traditions religieuses ne sont pas toutes faites, toutes constituées d'un corpus orgue de rites, de doctrines, les débuts, tout cela évolue dans le temps, il y a une pluralité interne aux traditions religieuses. Le christianisme ne se résume pas au catholicisme romain uniquement.
Bien sûr.
Donc c'est important de pouvoir faire entendre cette pluralité et cette diversité, c'est-à-dire de pouvoir historiciser davantage au cours des siècles le développement de ces traditions. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus, on voit dans les programmes que la part consacrée aux faits religieux s'amenuise à partir de, disons, la Révolution française, comme si dans le monde contemporain,
il n'y avait,
plus de place pour aborder les religions.
Bien sûr.
Ce qui n'est pas le cas. Et c'est se couper d'une grande compréhension des enjeux du monde contemporain que de croire que tout ça est relégué à un passé lointain.
Finalement, vous voyez, j'enfonce encore une porte ouverte. Moi, pour l'intégrer à l'histoire, au programme, Je suis complètement d'accord. Je suis sûre que certains, mais certains auditrices, auditeurs peuvent se poser la question. Finalement, est-ce que c'est vraiment indispensable? Certains pourront vous poser la question.
Mais ça fait partie de la compréhension des faits de civilisation, mais aussi du monde contemporain. On s'ampute de toute une interprétation, de toute une culture, si on néglige d'en parler. Mmh. Et surtout, c'est une forme de déni, parce que la question n'est pas de savoir si Dieu existe ou pas, si les religions sont bonnes ou mauvaises. La question est de prendre en compte un fait. Mmh. Et le fait est qu'il existe des croyants, qu'il existe des pratiquants, qu'il existe ces traditions religieuses, qu'elles s'incarnent à travers des œuvres, à travers des faits politiques, à travers parfois des conflits, effectivement. Mmh. Et c'est ça, en fait, le sens de l'approche par les faits religieux. Mmh. C'est de prendre en compte une donnée. C'est pas de prendre acte pour ou contre ou de prendre parti.
Tout à fait.
C'est de tenir compte de l'existant. Mmh. Et ça, il faut bien en parler, parce que si on se dit c'est un sujet de conflit où on ne partage pas tous la même opinion, bien on laisse en fait ce type de discours uniquement à ce que les croyants en disent ou uniquement à ce qu'on en entend à travers les médias. Et on n'aide pas à construire à l'école un regard informé, un regard critique au sens scientifique de ce que chaque jeune élève, futur citoyen, doit pouvoir avoir sur cette diversité des représentations du monde.
Alors aujourd'hui, le pouvoir politique, présidentiel, ministériel, les députés ou même les maires, c'est-à-dire les gens en place, les différentes communautés dirigeantes, elles en sont où intellectuellement, psychologiquement par rapport à cet état de fait? Quels sont les retours? Est-ce que vous sentez quand même un frémissement plutôt positif, plutôt avec une oreille attentive pour aborder et accepter ce genre de réalité, dirais-je?
Alors, oui et non. Excusez-moi, je vous fais une réponse un petit peu floue. Oui, parce que on retrouve ça dans les discours. On a une oreille très attentive. Ouais. On voit bien parfois, d'ailleurs, que c'est plus facile en dehors du monde scolaire. Mmh. On voit que dans d'autres secteurs des fonctions publiques territoriales, cette réflexion est mieux prise en compte.
Oui.
Mais on sent aussi des grandes des réserves et des craintes. Et ça, c'est très triste parce qu'on n'arrive pas à passer en arrière-plan l'idée qu'on ouvre la boîte de Pandore et qu'on va faire ressurgir soit une potentielle atteinte à la laïcité, faire entrer des conflits du monde contemporain dans un débat scolaire qu'on voudrait pacifier. Mmh. Donc, frilosité par rapport à menace d'un risque apologétique, elle ressurgit très très vite. Mmh. Je crois que dans le choix qui a été fait à l'école française de passer à travers les disciplines, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une raison tout à fait légitime qui est effectivement que les journées des petits élèves français sont déjà très remplies, les plus remplies d'Europe. Donc rajouter une discipline, ce serait alourdir excessivement. Mmh. Mais il y a aussi l'idée que à qui on confierait cet enseignement, ce serait un corps d'enseignants spécifique. Mmh. Et c'est toujours cette crainte du risque apologétique qui rend sur dimension qui demeure quand même aussi idéologique dans le refus d'aller plus loin, dans l'idée que il y a toujours une menace possible lorsque l'on aborde ces questions, qu'elles sont peut-être plus sensibles que d'autres.
En tout cas, votre livre est fort intéressant parce je trouve qu'il a la bonne approche, et surtout ça nous force, vous voyez, comme les questions que moi je me suis posées en le lisant, d'autres questions me sont venues à l'esprit. Je me fais un peu l'avocat du diable, c'est aussi un petit peu mon rôle, et à chacun des auditrices auditeurs de se poser les questions. Et puis je fais référence vraiment à votre livre parce que je pense que c'est un bon compromis sur les questions réelles à se poser. Est-ce que vous avez d'autres livres de prévus sur ce sujet ou d'autres sujets? Dites-nous un peu vos projets, Isabelle Saint-Martin.
Mes projets, avec l'équipe de l'Institut européen en sciences des religions, à laquelle j'ai participé pendant de nombreuses années, il nous paraît très important de contribuer à la formation. Je crois qu'il y a une grande demande de formation sur ces sujets et que mieux on est formé, plus on se sent à l'aise et légitime pour en parler.
Tout à fait.
Et il ne faut pas parfois idéaliser le savoir, la connaissance qu'un croyant, pratiquant peut avoir. Ce n'est pas du même ordre, ça ne rentre pas en conflit, ce n'est pas concurrentiel. Je crois que la formation, l'esprit de connaissance, c'est une manière de mettre en œuvre la laïcité au sein de l'école, de construire ce regard sur les faits religieux. C'est mettre en œuvre une laïcité vivante, en acte, qui ne s'interdit pas des champs du savoir sous prétexte qu'il serait tabou, domaine réservé et réservé aux seuls croyants.
Tout à fait. En tout cas, votre livre, moi j'enjoins à chacun de le prendre comme référence. Peut-on parler des religions à l'école, aux éditions Albin Michel. Je vous remercie infiniment Isabelle Saint-Martin. Je présente mes excuses aux auditrices, auditeurs, si parfois le son était un petit peu haché parce que voilà, notre invité était en Italie, donc parfois la communication n'est pas toujours évidente, mais j'espère que ce sera audible. En tout cas, c'était fort intéressant. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis à une prochaine fois pour un prochain livre. Voilà, ce micro vous est ouvert en tout cas.
Merci à vous.
Merci, bonne journée, merci, au revoir.
Bonne journée.